Chapitre 43. Jeudi 17 décembre, le soir. Les quelques heures de clarté de la journée sont déjà passées, et la nuit est retombée sur la ville. Des étoiles de l'avant brillent à presque toutes les fenêtres de l'autre côté de la rue. Une odeur saturée de raisin se dégage du verre à cognac. La bouteille de grappa est posée sur la table basse du salon. Simone est assise sur le parquet au milieu de la pièce et regarde quelques esquisses. Après que son père l'eut déposée au croisement entre Sveavägen et Odengatan, elle était rentrée chez elle, avait enlevé ses vêtements mouillés, s'était enveloppée dans une couverture et s'était couchée. Elle s'était endormie sur le canapé et ne s'était réveillée que lorsque Kenneth avait appelé. Puis, Sim Schulman était venu. Elle est assise en sous-vêtements, sent la grappa lui brûler le ventre et aligne les dessins. Quatre feuilles quadrillées représentant une installation artistique qu'il prépare pour la galerie d'art de Tensta. Schulman est au téléphone avec le directeur de la galerie. Il marche de long en large dans la pièce. Le parquet cesse soudain de grincer sous lui. Simone remarque qu'il s'est déplacé de façon à voir l'intérieur de ses cuisses. Elle le sent. Elle rassemble les esquisses, prend le verre à cognac et boit un peu sans se préoccuper de Schulman. Elle écarte légèrement les cuisses et imagine son regard brûlant la pénétrer. Il parle plus lentement. Veut mettre un terme à la conversation. Simone s'allonge sur le dos et ferme les yeux. Elle l'attend et sent la chaleur en elle, l'afflux sanguin, la moiteur de son sexe. Schulman a cessé de parler. Il s'approche, elle garde les yeux fermés, écarte un peu les jambes, entend s'ouvrir la fermeture éclair de son pantalon. Soudain, elle sent ses mains sur ses hanches. Il la retourne sur le ventre, la remonte à quatre pattes, lui baisse la culotte jusqu'aux cuisses et s'introduit en elle par derrière. Elle n'était pas tout à fait prête. Elle voit ses propres mains devant elle, les doigts écartés sur le parquet en chaîne, les ongles, les veines sur la main. Elle s'arc-boute pour ne pas tomber en avant quand il s'enfonce en elle. Dure, sauvage. L'odeur capiteuse de la grappa l'écœure. Elle voudrait demander à Schulman d'arrêter, de le faire différemment. Elle voudrait recommencer dans la chambre, dans une véritable intimité. Il pousse un long soupir et éjacule en elle, se retire et part dans la salle de bain. Elle remonte sa culotte et reste allongée par terre. Une étrange impuissance menace constamment de prendre le dessus, d'éteindre ses pensées, son espoir, sa joie. Plus rien en dehors de Benjamin ne compte. Elle ne se lève que lorsque Schulman a fini de prendre sa douche et revient avec une serviette autour de la taille. Elle sent à quel point ses genoux sont endoloris, s'efforce de sourire en le croisant et referme la porte de la salle de bain derrière elle. Son vagin la brûle sous la douche. L'eau chaude imprègne ses cheveux, coule le long de sa nuque, de ses épaules et de son dos. Une terrible sensation de solitude l'envahit. Elle se savonne avec soin et se rince longuement, le visage tourné vers le doux ruissellement de l'eau. Derrière le grondement de l'eau dans les oreilles, elle entend des coups sourds et comprend que Schulman frappe à la porte de la salle de bain.
« Simone !» crie Schulman. « Ton téléphone sonne !»«
Quoi ?»«
Ton téléphone !»«
Réponds !»
dit-elle en arrêtant l'eau.
« Maintenant ça sonne à la porte aussi »
crie-t-il.
« J'arrive !»
Elle prend une serviette propre dans le placard et s'essuie. La salle de bain est remplie de vapeur chaude. Ses sous-vêtements gisent sur le carrelage mouillé. Dans le miroir couvert de buée, elle voit un fantôme gris dans ses traits, une figure en argile. Un sifflement étrange provient de la ventilation près du plafond. Elle ne sait pas pourquoi tous ses sens se mobilisent comme si elle faisait face à un grand danger. Pourquoi elle déverrouille la porte tout doucement, sans un bruit, et regarde dehors. Un silence effroyable plane dans l'appartement. Quelque chose ne va pas. Elle se demande si Schulman est parti, mais n'ose pas appeler. Soudain, elle entend des chuchotements. Peut-être dans la cuisine, pense-t-elle. Mais avec qui parle-t-il? Elle tente de chasser sa peur, mais n'y parvient pas. Le sol grince et, par l'entrebâillement de la porte de la salle de bain, Simone voit quelqu'un passer en hâte dans le couloir. Ce n'est pas Schulman, mais quelqu'un de beaucoup plus petit. Une femme dans un survêtement large. La femme revient dans le couloir et Simone n'a pas le temps de se retirer. Leurs yeux se croisent dans l'entrebâillement. La femme se fige et Simone voit ses yeux s'écarquiller de terreur. La femme secoue rapidement la tête vers Simone et continue son chemin à travers le couloir jusqu'à la cuisine. Ses baskets laissent des traces de sang sur le sol. Une terreur panique s'empare de Simone, son cœur s'emballe et elle comprend qu'elle doit se sauver de l'appartement, fuir. Elle ouvre la porte de la salle de bain, se faufile dans le couloir et se dirige vers le vestibule. Elle s'efforce de ne pas faire de bruit, mais entend sa propre respiration et le sol qui grince sous son poids. Quelqu'un parle tout seul et trifouille dans les tiroirs à couvert. Des cliquetis et tintements aigus transpercent le silence. À travers l'obscurité, Simone voit une forme imposante étendue à terre dans le vestibule. Il lui faut quelques secondes avant de réaliser ce qu'elle a devant les yeux. Schulman est allongé sur le dos devant la porte d'entrée. Du sang se déverse par à coup d'une entaille à la gorge. Une mare rouge sombre recouvre presque tout le sol. Schulman fixe le plafond, les paupières frémissantes, la bouche grande ouverte. À côté de sa main, au milieu des chaussures posées sur le paillasson, Simone voit son téléphone. Elle se dit qu'elle doit le prendre, se sauver de l'appartement, prévenir la police et appeler une ambulance. Elle est étonnée de ne pas avoir hurlé en voyant Schulman. Elle devrait peut-être dire quelque chose, pense-t-elle. Puis elle entend des pas rapides dans le couloir. La jeune femme revient. Elle tremble de tout son corps, se mordit constamment les lèvres et s'efforce de garder son calme. « On ne peut pas sortir, la porte est fermée à clé !» chuchote la femme. « Qui est-ce qui a... »« Mon petit frère !»« Mais pourquoi ?»« Il croit avoir tué Eric, il n'a pas vu, il croit !» Un tiroir tombe à terre dans un fracas retentissant.
« Evelyne, qu'est-ce que tu fais ?» crie Joseph Heck. « Tu arrives à la fin !»«
Cachez-vous !» chuchote la femme.
« Où sont les clés ?» demande Simone.
« Il les a avec lui !»
dit-elle en se dépêchant de retourner dans la cuisine. Simone se faufile à travers le long couloir et entre dans la chambre de Benjamin. Elle suffoque, tente de fermer la bouche, mais manque d'oxygène. Le sol craque sous son poids, mais Joseph Heck parle à voix haute dans la cuisine et ne semble s'apercevoir de rien. Elle s'approche de l'ordinateur de Benjamin et l'allume. Elle entend le crépitement du disque dur et le sifflement du ventilateur. Elle se dépêche de ressortir et se glisse dans la salle de bain. Elle entend l'air de bienvenue du système d'exploitation. Le cœur battant, elle attend quelques secondes, sort de la salle de bain, regarde autour d'elle dans le couloir vide, puis file dans la cuisine. Il n'y a personne. Le sol est jonché de couverts et d'empreintes de pas sanglantes. Elle entend le frère et la sœur bouger dans la chambre de Benjamin. Joseph jure et quelques livres s'écrasent par terre.
« Regarde sous le lit !»
crie Evelyne d'une voix terrifiée. Un bruit sourd retentit. La boîte contenant les mangas de Benjamin est jetée à terre et Joseph souffle qu'il n'y a personne.
« Aide-moi !»
dit-il.
« Dans la garde-robe »
suggère-t-elle.
« C'est quoi ce bordel ?»
crie Joseph. La clé de la porte se trouve sur la table en chêne. Simone la prend et court à pas feutrés jusqu'au vestibule.
« Attends, Joseph !»
entend-elle Evelyne crier.
« Il est peut-être dans l'autre garde-robe !»
Un verre se brise et des pas lourds résonnent dans le couloir. Simone enjambe le corps de Schulman. Le bout de ses doigts remue faiblement. Elle introduit la longue clé dans la serrure de sécurité. Sa main tremble violemment.
« Joseph !»
crie Evelyne désespérément.
« Regarde dans la chambre à coucher ! Je crois qu'il est dans la chambre à coucher !»
Simone tourne la clé et entend le cliquetis du mécanisme de la serrure. Joseph Heck déboule dans le vestibule et la fixe du regard. Un râle furieux s'échappe de sa poitrine. Simone trifouille le loquet, sa main glisse, puis elle réussit à le tourner. Joseph tient un couteau à découper à la main. Il hésite, puis avance sur elle d'un pas décidé. Les mains de Simone tremblent à tel point qu'elle n'arrive pas à baisser la poignée. La jeune femme déboule dans le vestibule, se jette autour des jambes de Joseph et tente de le retenir. Elle lui crie d'attendre. D'un geste nonchalant, il donne des coups de couteau au-dessus de la tête d'Evelyne sans regarder. Elle gémit. Il continue d'avancer et Evelyne perd prise. Simone arrive à ouvrir la porte et titube dans la cage d'escalier. La serviette de bain glisse à terre. Joseph s'approche, puis s'arrête et observe son corps nu. Derrière lui, Simone voit Evelyne tremper sa main d'un mouvement rapide dans le sang de Schulman étendu sur le sol. Elle s'en étale sur le visage et le cou, puis s'effondre.
« Joseph, Je saigne !»
crie-t-elle.
« Chérie !»
Elle tousse, puis c'est le silence. Elle est allongée sur le dos, comme morte. Joseph se retourne vers elle, voit son corps ensanglanté.
« Evelyne ?»
dit-il d'une voix effrayée. Il hoquette dans le vestibule, et au moment où il se penche sur elle, Simone voit le couteau dans la main d'Evelyne. Il jaillit tel un piège primitif. La lame s'enfonce avec violence entre deux de ses côtes. Le corps de Joseph se relâche complètement. Il penche la tête sur le côté, s'effondre sur le sol et ne bouge plus.